VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guerrier, Eric Manilaki dans votre compagnie. Bienvenue dans cette édition, lundi 7 novembre 2016, au sommaire ce soir.
J-1 avant l'élection présidentielle ici aux États-Unis. Donald Trump et Hillary Clinton achèvent aujourd'hui sur un rythme effréné une campagne qui a divisé le pays. Coup de projecteur dans cette émission sur la course à la Maison-Blanche.
Une autre attaque d'un convoi de l'ONU au Mali a fait un mort et 7 blessés dimanche. La réinsertion sociale des enfants soldats demeure un défi majeur dans l'est de la RDC. Reportage en seconde partie d'émission. Double offensive contre les combattants du groupe État islamique à Mossoul en Irak. L'économie et les sports juste après le journal.
Actualité oblige, nous ouvrons sur la course à la Maison-Blanche, J-1 avant l'élection présidentielle. Mais pas de répit pour le candidat républicain Donald Trump ou son adversaire démocrate Hillary Clinton. Face aux sondages d'opinion qui sont nettement resserrés dans les États clés, les deux camps intensifient leurs efforts pour mobiliser leurs militants et persuader les indécis. Le point avec vous, Timothée Donangmaï.
Alors Morgan, la campagne a connu un nouveau rebondissement dimanche avec une lettre du directeur du FBI, James Comey, informant le Congrès qu'il maintient sa décision de ne pas recommander de poursuites judiciaires contre la candidate démocrate. C'est la suite de cette controverse autour de l'utilisation par Mme Clinton d'un serveur privé pour ses communications au département d'État. Une première enquête n'avait pas été concluante, mais le 28 octobre, surprise, le directeur du FBI avait annoncé sa réouverture suite à la découverte de nouveaux emails de la candidate démocrate, ce qui avait alors donné l'opportunité au républicain Donald Trump de réitérer ses accusations de corruption et d'activités criminelles contre elle. Loin de réjouir les démocrates, la dernière lettre du directeur du FBI annonçant la clôture de l'enquête a ravivé leur colère. Ils estiment en effet que cette affaire a eu un impact négatif sur les électeurs, en particulier ceux ayant déjà voté dans des États comme la Floride ou le Nevada qui permettent le vote par anticipation. Contre mauvaise fortune, Mme Clinton fait bon cœur en lançant un appel à la réconciliation.
I know there's a lot of frustration and even anger.
Je sais qu'il y a beaucoup de frustration et même de colère en cette saison électorale. Je le vois, je l'entends. Parfois, j'en suis l'objet. Mais la colère ne constitue pas un projet. Elle ne nous créera pas de nouveaux emplois qui créeront une classe moyenne forte et florissante, a dit Mme Clinton.
Le républicain Donald Trump, lui, continue de mobiliser de grandes foules auxquelles il répète son projet d'apporter un changement radical à Washington, Tim.
Et oui, Eric, l'homme d'affaires appelle également ses partisans à se rendre massivement aux urnes pour, dit-il, barrer la route à la fraude. Donald Trump promet une victoire écrasante aux urnes.
Nous sommes en train de gagner partout. Ce sera le Brexit. Ce sera spécial, mais vous devez aller voter. Mais ce sera spécial, a dit Trump.
Hillary Clinton est coupable, elle le sait, le FBI le sait et le peuple le sait, a lancé Donald Trump lors d'un meeting dimanche dans la banlieue de Détroit.
L'écart dans les sondages s'étant nettement réduit, c'est au sprint que les deux candidats à la Maison-Blanche entendent conclure cette campagne marathon, Tim.
Et oui, Morgan, dans le camp de Mme Clinton, c'est la grande mobilisation, à commencer par le président Barack Obama, dont le programme prévoit ce lundi des meetings dans le Michigan, le New Hampshire, avant Philadelphie en Pennsylvanie, où il se rendra en compagnie de son épouse Michelle Obama pour retrouver Hillary, Bill et Chelsea Clinton. La candidate démocrate a rallié à sa cause les grands noms du sport ou du showbiz américain comme Beyoncé et Jay-Z ou encore le basketteur LeBron James qui a pris la parole dimanche à Cleveland dans l'Ohio.
Nous devons sortir et nous assurer de voter. Nous devons sortir et savoir ce qui se passe, ce que nous voyons dans notre avenir. Et cette dame ici a un plan pour l'avenir le plus brillant pour notre monde, a déclaré LeBron James.
Le républicain Donald Trump, lui, compte battre campagne jusqu'au jour de l'élection. Il a prévu des meetings ce lundi en Floride, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie et dans le New Hampshire. L'homme d'affaires devenu politicien votera mardi à New York, puis retournera en Pennsylvanie, au Michigan, dans l'Ohio, la Caroline du Nord et le New Hampshire. Il faut dire qu'au total, quelques 130 millions d'Américains sont attendus aux urnes cette année et 42 millions et demi ont déjà voté dans les États permettant le vote par anticipation. Le moins qu'on puisse dire est que les Américains ont hâte de connaître le verdict de ces élections historiques mettant aux prises des candidats atypiques.
Merci Tim, et on signale qu'une vague de soulagement traversait aujourd'hui les places boursières mondiales de l'Europe à Wall Street en passant par l'Asie après la recommandation du FDI de ne pas poursuivre Hillary Clinton, la favorite de la finance mondiale.
Attaque la nuit passée au Mali, un gendarme et un surveillant de prison sont toujours portés disparus. Des hommes armés ont pris d'assaut la localité malienne de Banamba, à 140 km au nord-est de la capitale Bamako. C'est la troisième attaque en moins de 48 heures au Mali. Les détails avec Kassim Traoré, notre correspondant au Mali.
La dernière attaque a été effectuée dans la localité de Banamba. C'était aux environs de 0h05 que les assaillants sont arrivés dans la ville. Ils ont fait des tirs de sommation partout. Selon Djuma Kanté, un habitant que nous avons pu joindre au téléphone, les populations étaient terrées chez elles. L'agence de la BDMSA, l'unique banque de leur ville, a été pillée et brûlée. Des véhicules des militaires au niveau de la gendarmerie et de la garde nationale ont été emportés. La prison centrale a été cassée, ce qui a permis à une vingtaine de prisonniers de s'évader. Les gardes de l'agence de la BDMSA et un surveillant de prison sont portés disparus. Les populations de CBT, une localité située non loin de Banamba, ont vu les assaillants partir vers le cercle de Nyono, dans la région de Ségou. Beaucoup pensent que c'est la brigade d'Ansardine de Massina, du prédicateur Amadou Nkoufa, qui est l'auteur de cette attaque. La ville de Banamba, il faut le rappeler, est située à 180 km de Bamako, dans la région de Koulikoro. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président centrafricain en visite aujourd'hui à Abidjan. Faustin Archange Touadéra s'est voulu rassurant sur la sécurité pour attirer les donateurs et bailleurs de fonds. Les dispositions sont prises pour aider renforcer la force MINUSCA qui doit assurer seule la protection des civils après le départ de la force française Sangaris, entérinée officiellement le 31 octobre, a-t-il affirmé.
République démocratique du Congo, la voix des sans-voix dénonce la coupure du signal de RFI à Kinshasa. Mesure prise samedi, date à laquelle une coalition d'opposition avait appelé à une manifestation contre le pouvoir interdite par les autorités.
La 22e conférence climatique de l'ONU s'est ouverte ce lundi à Marrakech, au Maroc, pour concrétiser les engagements pris par la communauté internationale à Paris afin de lutter contre le réchauffement planétaire. Nani Talani, les détails.
À l'ordre du jour de la COP22, l'application de l'accord de Paris de 2015, qui, pour la première fois, avait vu la communauté internationale s'engager contre le réchauffement de la Terre. Les participants vont examiner les procédures de suivi des émissions de gaz à effet de serre par pays, les financements pour les pays du Sud et les critères de compensation des pays pauvres touchés par les impacts du changement climatique, comme les sécheresses, inondations et autres tempêtes. Marrakech, c'est le moment de faire avancer l'action, a déclaré la responsable climat de l'ONU, Patricia Espinosa, appelant les pays à accélérer le rythme et l'ampleur des mesures à prendre. La ministre française de l'Environnement et de l'Énergie, Ségolène Royal, souhaite que cette rencontre soit celle de l'Afrique, le continent qui subit le plus de changements climatiques sans en être responsable. Elle a rappelé que quelques 700 millions d'Africains sont toujours exclus de l'accès à l'électricité.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et dans le reste du monde, les forces irakiennes ont repris aujourd'hui au groupe État islamique la ville de Hammam al-Alil, dernière localité importante au sud de Mossoul. La police fédérale, l'armée et les forces d'élite du ministère de l'Intérieur ont repris le contrôle total de cette ville à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Mossoul. Salwa Jafari.
La vie a repris vite son cours normal à Hammam al-Alil. Certains résidents ont réouvert leur commerce, tandis que des soldats aidaient quelques civils déplacés à porter leurs sacs. À Bashiqa, les commandants kurdes irakiens ont échangé un feu nourri avec des militants de Daesh alors qu'ils avançaient sur deux directions. L'offensive visant à reprendre la ville s'inscrit dans le cadre de la poussée plus large vers Mossoul, la deuxième plus grande ville d'Irak et le dernier grand bastion du groupe État islamique.
La double offensive sur Raqqa et Mossoul. Le groupe État islamique cédait du terrain aujourd'hui autour de ces deux derniers fiefs, sous pression sur plusieurs fronts en Syrie et en Irak. Le groupe ultra-radical connaît le moment le plus critique de son existence depuis l'autoproclamation de son califat en 2014. Les 3 000 à 5 000 djihadistes présents dans la deuxième ville d'Irak sont désormais pris en tenaille.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est avec Nathalie Barge.
La dette publique du Togo est passée de 48% du PIB en 2011 à 75% en 2015, selon une mission du FMI qui a séjourné à Lomé. En 2009, le pays avait atteint l'initiative PPTE permettant l'annulation partielle de sa dette extérieure. Pour 2015, le gouvernement a consacré 20% de son budget aux infrastructures contre 10% prévu par la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. La raffinerie gabonaise Dawala a effectué ses premières exportations d'huile de palme et de palmiste au Cameroun et en Espagne. Le Cameroun a accordé des autorisations d'importation préférentielles pour 60 000 tonnes aux raffineurs afin d'atténuer le déficit de production d'huile de palme estimé à 100 000 tonnes par an. L'Égypte ne recevra pas de pétrole d'Aramco pour le deuxième mois consécutif et doit encore s'approvisionner sur les marchés internationaux, a annoncé le ministre du Pétrole. Le groupe saoudien a décidé de cesser d'approvisionner l'Égypte suite à un désaccord entre les deux pays au sujet de la Syrie.
L'info sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Le footballeur Cristiano Ronaldo prolonge avec le Real Madrid.
Le Galactique a prolongé jusqu'à ses 36 ans en 2021. Donc, avec le Real, il a assuré qu'il s'agissait de son avant-dernier contrat et qu'il comptait bien jouer encore pendant 10 ans. C'est un jour spécial pour moi. J'ai un lien avec le Real Madrid. C'est le club qui est dans mon cœur et c'est un moment unique dans ma vie, a déclaré le joueur. Je veux continuer à faire partie de l'histoire, a ajouté le meilleur buteur absolu du Real Madrid avec 371 buts en 360 matchs.
On reparle d'Haïlé Gebrselassie, la légende éthiopienne de l'athlétisme.
Le légendaire coureur, aujourd'hui à la retraite, a été élu à 43 ans président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme pour un mandat de 4 ans. Haïlé est considéré comme le plus grand coureur de fond de tous les temps, a remporté 9 des 15 votes nécessaires pour devenir le nouveau président de la Fédération. C'est ce qu'a précisé la radio gouvernementale Fana. Je suis honoré d'avoir été élu président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme. Nous allons travailler à un grand avenir pour l'athlétisme éthiopien, a réagi sur son compte Twitter. Gebrselassie, double médaillé d'or olympique sur 10 000 mètres aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996 et Sydney en 2000.
Le tennis masculin a un nouveau numéro 1 mondial.
Et oui, le Britannique Andy Murray est devenu numéro 1 mondial, détrônant ainsi Novak Djokovic, qui occupait cette position depuis juillet 2014. Selon le classement ATP publié ce lundi, Roger Federer sort du top 10 pour la première fois depuis, tenez-vous bien, 14 ans. Murray, vainqueur à Paris-Bercy dimanche de son quatrième tournoi d'affilée après Pékin, Shanghai et Vienne, est à 29 ans le deuxième joueur le plus âgé à atteindre pour la première fois le sommet du tennis mondial. Djokovic, lui, tombe de son piédestal après 122 semaines de règne ininterrompu depuis le 7 juillet 2014.
NBA, Dallas gagne enfin.
Dallas a mis fin au pire début de saison de son histoire en battant Milwaukee 86-75, tandis que les Lakers de Los Angeles ont enchaîné face à Phoenix une troisième victoire de suite, 119-108. Portland s'est imposé à Memphis 100-94 grâce aux 37 points de CJ McCollum, tandis que Toronto s'est incliné à domicile face à Sacramento 96-91. Enfin, Utah a surclassé les Knicks de New York au Madison Square Garden 114-109 grâce à 28 points de Gordon Hayward pour son premier match de la saison.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Eric Manilakis en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Morgane, le Burundi.
Et les transports doivent s'acquitter d'une somme variant entre 1 dollar et 13 dollars par mois. La mesure s'applique dès ce mois-ci, mais des pénalités seront appliquées prochainement pour les contrevenants. Pour les transporteurs, la facture est lourde puisque cette nouvelle taxe s'ajoute aux municipales. Correspondance de Christophe Kourounziza à Bujumbura.
Aux heures de pointe au centre-ville de Bujumbura, l'endroit où était érigé l'ancien marché central, taxis, voitures, bus de transport et d'autres voitures poids lourds affluent vers cette place, causant souvent des embouteillages. Pour le parking à cette place, qui est la plaque tournante des commerçants et hommes d'affaires, il faudra payer, mais pas uniquement pour le centre-ville. Cette mesure concerne d'autres places où des parkings seront construits à cet effet. Cette mesure pour les parkings payants prend effet à partir de ce mois de novembre, tel que l'a annoncé le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mboni.
On fera sur la gestion des autres villes dans la sous-région et dans le monde entier. La mairie a pris une décision de faire payer le droit de passage et le parking. C'est une innovation et nous pensons que ça va servir pour l'intérêt de la mairie et aussi pour l'intérêt des usagers. Il y a des options, le transport rémunéré et le transport non rémunéré. Pour ce mois de novembre, on ne va pas appliquer les pénalités. En ce qui concerne le transport non rémunéré, on va attendre une organisation propre à ce transport non rémunéré.
Le maire de la ville indique que les montants à payer ne sont pas exorbitants car les transports rémunérés font d'énormes rentrées journalières d'argent.
Pour un vélo, c'est moins de 66 francs par jour. Moto, c'est moins de 166 francs par jour. Un taxi, 500 francs par jour. Un quastel, 1000 francs. Une remorque, payer moins de 3500 par jour alors qu'il fait une business de plus de 5 millions par jour. On a essayé de tenir en considération tout ça.
Les transporteurs de voitures demandent d'abord une consultation avec les autorités municipales. Avant que la mesure ne soit effective, ce propriétaire d'un bus de transport à Bujumbura affirme que les taxes deviennent insupportables.
On ne peut pas travailler à perte, sans intérêt. On paie de l'argent pour beaucoup de documents. Contrôle technique, la taxe municipale, les documents du bus et payer aussi ses 500 francs par jour. En plus de cela, on paie une somme de 21 000 francs. Le transporteur ne pourra pas avoir toutes ces sommes.
Cet autre transporteur indique qu'il arrive que son bus de transport soit en panne, mais que la mairie continue à demander de l'argent quotidiennement.
On demande au maire de la ville de trouver des solutions à certaines difficultés qui surviennent fréquemment. Il arrive que le bus soit en panne. Il peut faire un mois dans un garage. À ce moment-là, où allons-nous trouver l'argent pour payer? Nous payons également d'autres documents administratifs. Nous sommes incapables de trouver cet argent.
Depuis plusieurs mois, le maire de la ville de Bujumbura a initié des programmes pour rendre la ville propre et sécurisée. Cette mesure de parking payant va dans ce sens, selon le maire de la ville, Freddy Monima. Christophe Kourounziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Nous partons maintenant dans l'est de la RDC. La réinsertion sociale des enfants soldats demeure un défi majeur. Il faut dire que parmi eux, certains ont obligé de se droguer et de tuer. À Bukavu, quelques organisations non gouvernementales qui travaillent notamment avec l'UNICEF tentent de rendre à ces victimes de conflits leur place dans la société.
Leugueur et conflits armés multiples en RDC ont créé depuis 1996 une catégorie d'enfants incorporés des forces au sein des milices et même des forces armées de la RDC. Selon le lieutenant-colonel Floribert Mofungizi, commandant du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale au sein de l'armée au Sud Kivu, 20 ans après.
Les FRDC n'ont pas des enfants dans leur force, mais ces enfants peuvent provenir de différents groupes armés. Quand il y a un groupe qui veut quitter et pour s'intégrer, à ce moment-là, il y a une équipe de vérification. Et une fois cet enfant confirmé mineur, on le prend, on le met sous contrôle d'une organisation pour son insertion.
L'ONG Bureau pour le volontariat au service de l'enfance et de la santé BVS qui prévient depuis plus de 20 ans le recrutement et l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés. Mouraba Zinamegabe, directeur d'IBVS.
On est entre 45 000 et 50 000 enfants sortis des forces et groupes armés au cours des 15 ans passés et parmi eux 9 737 dont 1048 filles
Un ex-enfant soldat de 14 ans, encadré depuis 2015 au BVS, explique le calvaire qu'il a traversé.
Ils m'avaient attrapé alors que je faisais la chasse pour survivre. Aussitôt, ils m'ont exigé de prendre leur portion magique et intégrer le groupe, sinon ils me tuaient. Je n'avais pas le choix, mais la vie des soldats était très dure pour moi. On fait des choses pas correctes. Au final, je me suis échappé. Ensuite, l'armée m'a récupéré et le BVS m'a réclamé et m'a amené ici où l'on s'occupe de moi. Je souhaite vraiment faire des études et travailler dans mon village. Qui sait, peut-être je serai un enseignant ou un médecin.
Mourabazina Megabe de BVS explique.
La plupart des enfants viennent dans un tableau de sauvagerie terrible. Et après, on va commencer des programmes d'accompagnement psychosocial. On a des enfants qu'on doit amener à l'hôpital pour les soins médicaux. Les filles, on doit les envoyer systématiquement parce que 100% ont été d'esclaves sexuels. Un travail extrêmement complexe pour en faire encore des enfants, des familles ou des communautés.
Ces drames des enfants privés de leur enfance est aussi une priorité de la Fondation Solidarité des Hommes. Son directeur exécutif pays, Fernando Wankana, explique.
Nous les soumettons à 4 mois de stage professionnel et après, on passe à un placement. Par exemple, dans la ville, la mécanique auto, la coupe et couture, nous avons l'agistage, la maçonnerie, la coiffure, l'informatique, la pâtisserie.
Ephraim Mukungu, un ex-enfant soldat devenu mécanicien.
J'ai choisi d'apprendre la mécanique. J'ai eu un job dans un garage qui me permet de m'organiser. Je vis de plus en plus mieux parce que surtout je n'ai plus la peur en permanence.
Ernest Mouiro Bukavu, VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
Lors de sa visite officielle au Sénégal, le roi Mohamed VI a déclaré que le Maroc veut retrouver sa place naturelle en Afrique. Rendant un vibrant hommage au Sénégal, le monarque chérifien est revenu sur la question du Sahara occidental et sur son retour au sein de l'Union africaine. Pour une analyse, Claire Morin-Gibourg a joint le chef du service politique au journal Le Soleil, Abdoulaye Thiam.
D'abord, il faut dire que le Maroc et le Sénégal sont liés par l'histoire et la géographie. Cette visite, la 4e du roi Mohamed VI au Sénégal depuis l'arrivée du président Macky Sall à la tête du pays, confirme l'excellence des relations entre les deux États. Cette visite pour le Sénégal est très très importante. La preuve, hier, lorsque le roi est arrivé au Sénégal, il a été accueilli par une foule nombreuse, malgré l'heure tardive. Il est arrivé là vers l'heure du crépuscule, mais beaucoup de Sénégalais étaient dans les rues pour l'accueillir, de même que les Marocains vivant au Sénégal. Ça a été une grande fête, un accueil populaire, un accueil fraternel, tout cela pour prouver encore une fois l'excellence des relations entre nos deux pays. Il faut également dire que, au plan économique, le Sénégal et le Maroc entretiennent d'excellentes relations. Le partenariat marocain est bien représenté au Sénégal. Par exemple, au niveau des finances, au niveau des banques et d'agrément public, il y a le groupe Atijari Wafa Bank qui est bien présent au Maroc, au Sénégal. Il y a également des entrepreneurs marocains qui sont dans le bâtiment, le transport et le commerce.
Mohamed VI a aussi choisi d'être au Sénégal alors que s'ouvre à Marrakech la 22e conférence sur le climat, donc il est à l'étranger. Est-ce que cela vous a-t-il surpris ?
Oui, le Sénégal tient beaucoup à la rencontre sur la COP22 qui s'ouvre au Maroc, plus précisément à Marrakech la COP22. D'ailleurs, le président sénégalais compte y aller et fera une communication très très importante. Car vous savez, depuis l'accord de Paris qui est entré en vigueur, un pays comme le Sénégal, qui a beaucoup copié sur le Maroc, par exemple, au niveau de l'énergie solaire, le Sénégal est en train d'inaugurer depuis quelques jours une nouvelle ère sur le solaire. Et tout cela, nous avons fait comme l'ont déjà fait les Marocains.
Et comment la volonté de retour dans l'Union africaine du Maroc est-elle perçue au Sénégal ?
Le retour du Maroc à l'Union africaine a été bien, bien accueilli par le peuple sénégalais, le chef d'État sénégalais et toutes les peuples sénégalaises. Vous savez, le Maroc est parti depuis très très longtemps, du temps du roi Hassan II. Aujourd'hui, le Maroc est revenu au mois de juillet dernier. Et si je me rappelle bien, ce retour du Maroc m'avait trouvé dans la capitale marocaine au moment où j'étais dans une rencontre. Et là, tous les journalistes africains présents avaient apprécié ce grand retour du Maroc. Et nous savons que le Sénégal a toujours eu des positions communes avec le Maroc. À chaque fois qu'il y a un événement, le Sénégal se range à côté du Maroc ou bien le Maroc se range à côté du Sénégal. Et aujourd'hui, le tour du Maroc dans l'Union africaine a été vraiment très, très, très apprécié, positivement apprécié par le gouvernement sénégalais.
Les élections américaines n'ont jamais autant passionné les électeurs américains. Sans précédent aussi, l'engouement du reste du monde. Qui de Donald Trump ou de Hillary Clinton sera le prochain locataire de la Maison Blanche? Nous le saurons la semaine prochaine et VOA Afrique sera là pour vous accompagner tout au long de ce scrutin historique. Nos correspondants seront en direct depuis New York et Washington pour vous donner les résultats des élections, mais aussi pour faire le point. L'Amérique vote, c'est les 7, 8 et 9 novembre sur VOA Afrique.
De nouveaux combats dans la ville de Galkayo entre forces de deux régions, le Puntland et le Galmudug, autoproclamés semi-autonomes du nord de la Somalie. Au moins 25 soldats sont morts et 30 blessés dimanche. Les deux camps se rejettent la responsabilité des combats. Les tensions entre le Puntland et le Galmudug avaient éclaté en septembre à la suite d'une frappe américaine visant des islamistes Shabab. Pour combattre
dans
la nature.
Dans le nord de Galkayo, la ville est administrée par la région du Puntland. Et dans le sud, elle est administrée par une nouvelle administration de Galmudug. Donc ça, c'est une nouvelle région qui a été créée l'année dernière lors du processus de fédéralisation de la Somalie. Non seulement ce processus de fédéralisation a mené à de nouveaux conflits, alors ce qui se passe à Galkayo, c'est pas un nouveau conflit, c'est en fait des divisions entre deux des plus grands clans du pays, en fait, qui datent des décennies. Et c'est des divisions et c'est des problèmes qui n'ont toujours pas été réglés par les processus internationaux, etc. L'année dernière, vers le fin de l'année aussi, il y avait déjà eu des confrontations meurtrières entre les forces, les milices de Galmudug et les forces et les milices du Puntland. Puntland est dans une situation administrative assez différente parce que depuis la moitié des années 90, en fait, la région du Puntland était déjà une administration autoproclamée et qui gérait sa région de façon assez différente que le reste de la Somalie. C'est quand même une région qui est beaucoup plus établie que la région de Galmudug qui a été créée l'année dernière.
Les djihadistes Shabab sont très actifs en Somalie. Est-ce qu'ils sont présents aussi dans cette région?
Deux ou trois semaines avant que le conflit a repris à Galkayo en octobre, on avait vu un attentat significatif qui a été proclamé par Al-Shabaab. Même s'ils n'ont pas contrôle du territoire à Galkayo, ils ont une présence importante des deux côtés, aussi dans le Galmudug.
Et dans la Somaliland, c'est calme là-bas?
Somaliland est quand même une région qui s'est proclamée indépendante, mais dont l'indépendance n'est pas reconnue par la communauté internationale. Là, il y a un contexte assez différent. Depuis les années 1990, en fait, il y a eu tout un processus de réconciliation dans le Somaliland qui a créé un État qui travaille plus ou moins bien, une administration, il y a eu des élections. Une région qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus sûre que beaucoup des autres régions de la Somalie.
C'était Laetitia Bader, chercheuse de Human Rights Watch en Somalie, jointe à Nairobi au Kenya.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31 40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Fin de cette édition. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde, Morgane Guiriec et Eric Manirakiza à la présentation.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Nous avons atteint la barre des 2 millions. On maintient la conversation. Et surtout, visitez notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.